François Dutoit, bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce que s'il vous plaît, vous pourriez vous présenter pour nos auditeurs ?
Bien sûr, bonjour à tous. Mon nom est François Dutoit et mon épouse et moi avons 4 enfants et 11 petits-enfants de quelques mois à 11 ans. Nous faisons partie des AFC, les associations familiales catholiques, où j'ai longtemps eu un rôle opérationnel comme président de la Fédération des Yvelines et aussi membre du Conseil d'administration nationale. Et maintenant, je me consacre à la politique familiale et je vais vous en dire quelques mots. Je suis également membre du HCFEA, le Haut Conseil pour la famille, l'enfance et l'âge, qui est une institution mise en place par le gouvernement en 2008 et réformée en 2016. Alors, pourquoi sommes-nous aux AFC ? Eh bien, tout simplement parce que quand nous étions jeunes mariés, nous avons connu des personnes à qui nous aurions aimé ressembler et qui jugeaient important d'être aux AFC. La grande mobilisation de 1984 pour la liberté de l'enseignement y est aussi pour quelque chose dans notre prise de conscience. Alors, je suis un scientifique, ingénieur, et rien ne me prédestinait à m'occuper de politique familiale. Alors, qu'est-ce qui me motive ? Ce qui me motive, c'est Saint Jean chapitre 17. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, les yeux levés au ciel, il priait ainsi : « Je ne demande pas que tu les retires du monde, mais que tu les gardes du mauvais. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. » Voilà, c'est ce qu'on appelle le chrétien dans la cité. Jésus nous envoie en mission, et c'est ça qui me motive. Nous ne devons pas être des zébulons qui sortons de notre boîte quand ça ne va pas pour râler un bon coup, puis disparaissons. Nous devons travailler avec les autres, nous devons nous asseoir autour de la table avec les autres et mettre la main à la pâte. Alors, pour le chrétien dans la cité, il y a 3 façons d'agir. La politique, le syndicalisme et l'action capillaire. Aux AFC, nous sommes dans les 2 dernières. Notre côté syndical, c'est ce que nous appelons l'action vers le haut, c'est la représentation des familles auprès des pouvoirs publics. L'action capillaire, elle, consiste à innerver la société par le bas, par l'intérieur, en incitant chaque citoyen, chaque chrétien, à se former, à comprendre les enjeux et à prendre sa place dans la cité. Nous faisons cela depuis plus de 100 ans à travers les associations et les familles qui y adhèrent. Plus de 300 associations réparties dans tout le territoire avec 26 000 familles, soit plus de 100 000 personnes concernées.
Alors, qu'est-ce que la politique familiale et qu'est-ce que sa finalité ?
La politique familiale. La crise sanitaire de la Covid-19 nous rappelle à la réalité. Le seul refuge possible, on l'a vu, c'est la famille. Personne n'a eu l'idée de confiner les enfants dans des colonies de vacances ou des centres de loisirs. Donc, l'importance de la famille. Chaque personne est unique et a une valeur par elle-même. Et c'est dans la famille qu'elle grandit et s'épanouit. La famille est donc le lieu naturel et premier de toute vie humaine et elle conditionne tout le reste. La société n'est pas une somme d'individus où la famille ne serait qu'un artifice commode. Alors, qu'est-ce qui permet de vivre en société ? C'est la recherche du bien commun qui permet de vivre en société. Valoriser le bien de l'autre au même niveau que son bien propre. Nous, chrétiens, on appelle ça aimer son prochain comme soi-même. Une erreur très répandue aujourd'hui consiste à croire qu'on peut fonder une société sur la recherche du bonheur individuel et que cela s'équilibrerait dans une sorte de loi de l'offre et de la demande généralisée. Vous savez, ma liberté finit là où commence celle d'autrui, qui est complètement faux. Cela serait un équilibre des égoïsmes. Cet équilibre dont on vient de parler s'appelle l'intérêt général, et c'est très différent du bien commun. L'intérêt général est au service du vivre ensemble. Et donc son mot-clé, c'est la tolérance. Pour vivre ensemble, il faut tout tolérer. Et vous comprenez tout de suite les dérives que ça peut amener. Donc le bien commun. Si les sociétés humaines et leur autorité légitime sont au service du bien commun, elles doivent évidemment rechercher en premier lieu le bien des familles, car sans famille, pas de société. La recherche du bien des familles s'appelle la politique familiale. Nous y voilà. Elle se distingue des politiques sociales et fiscales, et il est très important de séparer les politiques familiales, fiscales et sociales de façon à ce que les gouvernants puissent agir sur chacun des leviers en cas de besoin. La politique fiscale consiste à financer l'ensemble des dépenses publiques en demandant à chaque foyer de contribuer en fonction de ses capacités. C'est la mise en application de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 qui parle d'une répartition égale en fonction des facultés de chacun. C'est très intéressant de voir que les révolutionnaires de 1989 appelaient égal ou égalité une contribution en fonction de ses capacités et non pas une contribution égale. La politique fiscale relève de la justice. La politique sociale, elle, consiste à aider ceux qui en ont besoin. Elle a un rôle curatif et on espère que ces mesures sont temporaires car le but est de redonner aux personnes leur autonomie. C'est une redistribution verticale du riche au pauvre. Sa mise en œuvre relève de la solidarité. La politique familiale, elle, consiste à reconnaître et valoriser les services rendus par les familles au bien commun. Elle a un rôle proactif et préventif et elle garantit la stabilité. C'est une répartition horizontale, c'est-à-dire des familles sans enfants vers les familles avec enfants. Sa mise en œuvre relève de l'équité. Par principe, une politique familiale ne peut s'accommoder de l'individualisation. Donc c'est important de garder le niveau de la famille, du foyer ou du ménage. Il faut garder des leviers indépendants, je l'ai dit. Il est important de pouvoir agir sur la pauvreté en cas de crise économique. La politique familiale ne serait d'aucun secours. En revanche, ce n'est pas la politique sociale ni la politique fiscale qui peuvent agir sur l'équilibre du futur système des retraites. Seule une politique familiale peut le faire. Il ne faudrait pas que avoir des enfants, donc des prestations sociales, devienne un moyen de subsistance en détournant une politique familiale mal pensée. Donc il faut bien séparer les variables fiscales, sociales, familiales. Alors un mot sur le quotient familial, qui en réalité est un quotient foyer fiscal. Le quotient familial ne relève pas de la politique familiale, mais de la politique fiscale. C'est très important de comprendre. C'est une conséquence directe de la progressivité du taux d'imposition. Si le taux était fixe, comme le voudraient certains, par exemple 20% d'impôts pour tout le monde, il n'y aurait pas de quotient familial. Et le taux progressif est une bonne chose, il permet d'imposer le superflu plus que le nécessaire. Donc il permet d'ajuster la capacité contributive. Alors, quelle est la limite entre le nécessaire, le superflu, le très superflu, etc. Et c'est ce que permet de prendre en compte le quotient familial. Donc on calcule le niveau de vie par personne du foyer fiscal, c'est le système départ, et c'est sur cette base équitable qu'on applique le taux d'imposition. Donc ce qui se passe, on divise le revenu par le nombre de parts pour calculer un niveau de vie moyen du ménage, on applique le barème et on remultiplie par le nombre de parts pour calculer l'impôt. Si le taux était fixe, faites le calcul, ça ne changerait rien. Le quotient familial est donc lié intimement au taux progressif. Il permet simplement de tenir compte de la capacité contributive de chacun, à niveau de vie égal, imposition égale. Ce n'est pas un cadeau aux familles, c'est de la simple équité, c'est l'égalité des citoyens devant l'impôt. Faire autrement serait une injustice.
Alors pourquoi
donc il est important de se souvenir que le quotient familial n'est pas de la politique familiale.
Alors pourquoi est-il important d'avoir une bonne politique familiale pour les années à venir ?
Alors, dans son bilan démographique de 2020, publié le 19 janvier 2021, l'INSEE confirme la diminution constante du taux de fécondité depuis quelques années et surtout la naissance de 100 000 enfants de moins en 2020 qu'il y a 10 ans. Or, les contributions sociales sont prélevées sur les rémunérations des actifs. Elles auraient pu l'être partiellement financées par les revenus fonciers ou sur la consommation comme la TVA ou encore par une taxe sur les plus-values boursières. Elles ne le sont pas. Elles sont financées par les revenus du travail. Donc l'équilibre du système de protection sociale à la française, dans son ensemble, qu'il s'agisse de l'assurance maladie, des retraites ou du financement de la dépendance, est très lié à la proportion des actifs dans la population. La baisse des naissances, aujourd'hui, menace l'équilibre du système de demain. Et nous subissons déjà les conséquences de la baisse des naissances après le baby-boom d'après-guerre. Les actifs d'aujourd'hui doivent non seulement subvenir aux besoins d'un nombre accru de personnes âgées, mais ils risquent, une fois arrivés à la retraite, de voir leur propre pension réduite à une peau de chagrin s'il n'y a pas assez de monde pour les payer. Pourtant, l'étude Kantar, commandée par l'UNAF, l'Union nationale des associations familiales, et qui a été publiée le 14 janvier, souligne que le désir d'enfant des Français n'a pas diminué pendant les 10 dernières années et demeure très stable, toujours très supérieur au taux de fécondité. La fécondité passe de 2 enfants par femme en 2011 à 1,87 en 2020, quand le nombre moyen d'enfants que les Français veulent ou auraient voulu avoir est stable à 2,39 depuis 2011. Donc le désir d'enfant est très supérieur à la réalité des enfants qu'on a eus. Alors pourquoi la fécondité, après 10 ans de hausse, entre 1994 et 2005 à peu près, puis 9 ans de stabilisation autour de 2 enfants par femme, entre 2006 et 2014, pourquoi cette fécondité se dégrade-t-elle depuis 6 ans ? Eh bien, nous ne pouvons que constater un lien de plus en plus évident entre cette natalité en berne et les coups de rabot supportés par la politique familiale depuis 2013. Diminution par 2 fois du quotient familial, mise sous condition des ressources des allocations familiales, raccourcissement de l'indemnisation du congé parental, décalage de la prime de naissance, durcissement des conditions de ressources pour les aides à la garde d'enfants, revalorisation des allocations familiales inférieures à l'inflation, etc. D'après les études de l'INSEE, le niveau de vie des familles avec enfants ne cesse de se dégrader. Alors, quels sont les freins qui empêchent les familles d'avoir le nombre d'enfants qu'elles auraient voulu? Une étude de l'Observatoire des familles de l'UNAF relève les principales difficultés que rencontrent les familles. Respecter le budget familial, concilier vie professionnelle et vie familiale, passer du temps avec ses enfants, suivre leur scolarité, régler les conflits et disputes, etc. Il y a donc bien, dans la baisse de la fécondité des familles et la fragilisation du système de protection sociale à la française qui en découle, des raisons matérielles, à effet immédiat, la crainte de voir son niveau de vie baisser, un logement insuffisamment adapté, des possibilités de garde d'enfants inadéquates, etc. Et des raisons sociétales, à plus long terme, liées à la confiance dans l'avenir. Un travail peu stable et qui ne permet pas d'harmoniser sa vie familiale et sa vie professionnelle, un couple insuffisamment stable, voire conflictuel, etc. C'est pourquoi, aux associations familiales catholiques, comme nous le faisons depuis de nombreuses années, nous alertons et proposons deux moyens de permettre aux Français d'avoir le nombre réel d'enfants le plus proche de leurs aspirations. Premièrement, une politique familiale ambitieuse, qui améliore les conditions matérielles des familles. On réalise l'équité du niveau de vie à revenu égal en faveur des familles avec enfants par rapport aux familles sans enfants. Et deuxièmement, un accompagnement des couples pour une meilleure confiance dans l'avenir et une plus grande stabilité, y compris le développement des initiatives d'aide à la parentalité, à l'éducation de la personne, à la préparation au mariage civil, etc.
Quelles propositions pouvons-nous faire pour redresser la tendance?
Alors, dans un premier temps, on peut agir sur la fiscalité, les prestations familiales, le régime des retraites, etc. Pour rétablir l'équité, c'est-à-dire un revenu égal, niveau de vie égal par unité de consommation, il est nécessaire de supprimer la mise sous condition des ressources des prestations à caractère familial et de les revaloriser avec le coût de la vie. Il est également nécessaire d'appliquer au système de prestations familiales la même notion de personne à charge que celle qui est prise en compte par le régime fiscal. Aujourd'hui, l'âge d'un enfant à charge n'est pas le même, l'âge maximum n'est pas le même dans le régime fiscal et dans le régime des allocations familiales. Et ce n'est pas normal. Au moment où les enfants coûtent le plus cher, ils disparaissent du paysage. Il faut également supprimer les plafonds du quotient fiscal qui biaisent le régime progressif et n'ont pour seul effet que de pénaliser à revenu égal les familles qui ont des enfants. Les études montrent que bien souvent maintenant, les familles paient plus de CSG que d'impôts sur le revenu. Il est donc nécessaire de revenir au principe d'un impôt en fonction des capacités contributives et donc de familialiser la CSG en y introduisant le principe du quotient foyer fiscal. Autre chose, on doit aussi étudier la prise en compte du travail utile et non rémunéré, qui doit être éligible à la couverture sociale et à la retraite. Par exemple, tous les bénévoles qui travaillent dans des associations reconnues d'utilité publique, ou encore les mères de famille à la maison. Enfin, il serait juste d'exonérer tout ou partie des droits de mutation quand une famille doit changer de logement pour s'agrandir ou doit déménager pour des mutations professionnelles. Alors, deuxième liste de propositions possibles pour redresser la tendance, favoriser ce qu'on appelle le travail à temps choisi. En France, un enfant pauvre sur trois vit dans une famille monoparentale. Mais également, un enfant pauvre sur trois vit dans une famille nombreuse, de trois enfants et plus. Alors, quel est le point commun? Le point commun, c'est l'impossibilité de ramener deux salaires à la maison. La société s'est ajustée sur deux salaires dans les foyers. Et ceux qui ne peuvent pas ramener de salaire deviennent inadaptés. Mais est-ce que les mères de famille ont vraiment le choix? Donc, il est important de développer ce qu'on appelle le travail à temps choisi et non subi, un principe qui existe déjà dans certaines entreprises et il faut le généraliser. C'est un principe qui permet de choisir ses horaires, de se mettre d'accord dans son contrat de travail avec son employeur et d'avoir un réajustement régulier tous les 3 mois, tous les 6 mois, de son schéma de travail, nombre d'heures par semaine, etc. Et ça favorise énormément la conciliation du travail professionnel et de la vie familiale. Un autre point important qui concerne le travail, c'est la RSE, la responsabilité sociale des entreprises. Aujourd'hui, l'impact écologique ou l'éthique sont devenus des critères essentiels dans le classement des entreprises par les investisseurs. Eh bien, il faut qu'il en soit de même pour le bien-être des collaborateurs et plus particulièrement pour l'harmonisation de leur vie professionnelle et familiale, qui doit se mesurer par un indicateur à destination des investisseurs. Alors, un autre point à travailler, c'est l'amélioration des congés, des modes de garde, des équipements collectifs. Pour harmoniser vie familiale et vie professionnelle, et aussi permettre aux parents d'avoir le nombre d'enfants qu'ils désirent, il faut rémunérer les congés d'accompagnement, de naissance, de maladie, d'assistance et de soins, etc. Et plus particulièrement, avoir un congé parental flexible avec la possibilité de transfert à l'autre parent. Il faut offrir aux parents un vrai choix entre le congé parental, court, bien rémunéré, ou long, moins rémunéré. Donc le congé parental, l'accueil en crèche, la garde par les assistantes maternelles et la garde à domicile. Les mesures de travail à temps choisi et de garde n'ont de sens que si l'on développe les équipements collectifs ou les services associés en quantité et en qualité. Je parle des crèches, des garderies, des transports scolaires, des clubs sportifs, des centres de loisirs, des mouvements de jeunes, etc. Et il faut veiller que le foisonnement des normes ne les rende pas inopérants ou trop chers, ce qu'on appelle des normes au juste besoin. Alors, la proposition suivante concerne le logement, le transport et l'insertion professionnelle. Le logement, le transport, l'insertion professionnelle sont les principales difficultés rencontrées par les jeunes adultes et par ricochet par leur famille. Mais pas seulement les familles monosalaires qui sont particulièrement impactées par les questions de logement et de transport. Le recul de l'âge auquel on fonde une famille est inquiétant. On veut cocher toutes les cases. On veut finir sa formation, on veut une expérience professionnelle solide et valorisable quand on reprend le travail. Et donc on attend pour fonder sa famille, d'avoir tout ça en poche, et l'âge moyen de fonder une famille est repoussé. Aujourd'hui, l'âge moyen du premier enfant chez les femmes est proche de 30 ans. Il faut aider les jeunes à fonder une famille plus tôt, et pour ça, nous préconisons de développer la formation en alternance et l'apprentissage qui permettent aux jeunes d'avoir une rémunération, donc aux familles d'être soulagées financièrement, et aux jeunes de pouvoir acquérir leur autonomie beaucoup plus tôt et donc fonder une famille. Alors maintenant, en ce qui concerne la politique familiale dans les territoires, il y a beaucoup de choses à faire. l'aménagement urbain, le logement, les écoles, les équipements, activités, accueil de la petite enfance, action sociale, etc. Et aussi la fiscalité locale, dont la taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères. Maintenant, on commence à facturer à la quantité. Alors, vous pensez qu'une jeune famille avec des couches est très pénalisée. Donc, l'enlèvement des ordures ménagères, ce n'est pas du tout anodin. Le critère du niveau de vie par unité de consommation de l'INSEE et l'alignement de la définition des personnes à charge sur le droit fiscal doivent s'appliquer également au niveau local. Enfin, si on veut aider les parents à avoir le nombre d'enfants qu'ils désirent, il faut leur donner confiance dans l'avenir et les aider à former un couple stable. Une politique familiale ambitieuse se doit donc également de favoriser des actions concrètes dans ce domaine, comme le conseil conjugal, la médiation, l'accompagnement à la parentalité, etc. Il faut inscrire la prévention dans les missions de la CNAF, la Caisse nationale des allocations familiales, et dans sa convention avec l'État, au même titre que l'accompagnement de l'échec, la médiation. Aujourd'hui, la Caisse nationale d'allocations familiales refuse de s'occuper de la prévention, du conseil conjugal, de l'éducation affective et sexuelle, etc., sous le prétexte que sa convention avec l'État ne traite que de la médiation. Mais la médiation n'arrive qu'après les difficultés du couple. C'est l'accompagnement de l'échec. Donc il faut vraiment travailler en amont et il faut que le gouvernement donne mission à la Caisse nationale d'allocations familiales de s'occuper de ce sujet-là.
Alors, vous nous l'avez très très bien expliqué. Effectivement, il y a de grands défis à faire au niveau des familles. Les familles sont particulièrement attaquées, défavorisées, j'ai envie de dire. Et la société, forcément, n'est pas là pour l'épanouissement en particulier des familles. Alors, comment vous faites pour justement défendre ces familles, pour vous faire entendre ?
Alors, de plusieurs façons. La première, c'est la représentation des familles auprès des pouvoirs publics. Ça consiste à participer aux instances. J'ai parlé tout à l'heure de l'Union nationale des associations familiales. Donc, les AFC font partie avec les autres associations familiales, les associations familiales protestantes, les familles de France, les associations familiales rurales, etc. Nous faisons tous partie des unions départementales et de l'Union nationale des associations familiales, où nous travaillons ensemble et nous sommes consultés par l'administration sur les sujets qui concernent la famille. Nous donnons des réponses. Nous réagissons sur les projets de loi, etc. Donc les AFC, comme on l'a vu, sont autour de la table avec leurs pairs pour participer à la vie de la cité, donc les représentations à travers l'UNAF. Et à travers l'UNAF, les associations familiales sont invitées à siéger dans un certain nombre d'instances. Alors vous avez vu que moi je siège au HCFEA, le Haut Conseil pour la Famille, l'Enfance et l'Âge. Et nous avons des représentants dans un certain nombre de conseils d'administration, comme le conseil d'administration de la Caisse nationale des associations des allocations familiales, ou dans les caisses départementales. Dans des conseils d'administration d'hôpitaux ou de maisons de retraite ou dans des conseils, ça va. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Nous avons un représentant dans le conseil des entreprises funéraires qui ont un concours pour recruter des personnes. Et les associations familiales font partie du jury de ce concours. Voilà un exemple. Donc la représentation des familles auprès des pouvoirs publics et dans un certain nombre d'instances. Ça, c'est la première façon que l'on a d'agir. Et la seconde façon, c'est ce que j'avais appelé l'action capillaire. Et ça consiste à travailler à travers nos associations et nos adhérents, et encore plus loin, pour répandre le message, corriger des erreurs, former les gens et les aider à progresser et à former leurs propres enfants, etc.
Et est-ce que justement il y a un site, un endroit où chacun pourrait se renseigner effectivement pour avoir à la source ?
Alors oui, il y a un site, je ne l'ai pas donné, mais c'est afc-france.org, un site national qui est ouvert à tous dans lequel il y a une foule d'informations, en particulier sur la politique familiale, mais pas seulement. Vous savez que les associations familiales catholiques sont aussi une association agréée consommation et agréée santé. Donc il y a beaucoup d'informations et j'invite les auditeurs à aller surfer sur ce site. Vous verrez, c'est très intéressant. Et ensuite, très souvent, les fédérations départementales ont également un site où on trouve là des informations plus locales et même certaines associations qui sont plus grosses que d'autres ont aussi un site web dédié à leur association. Donc il y a beaucoup d'informations, mais la meilleure façon de faire, c'est d'aller au site national afc-france.org et vous verrez en haut à droite, j'adhère, donc vous cliquez là et vous adhérez, pas de problème. On vous attend.
Et si des gens souhaitent effectivement témoigner, enfin peut-être simplement en devenant adhérent, on peut aussi se témoigner, enfin de toute façon en parler le plus possible. J'imagine que plus nous sommes nombreux, mieux ce sera.
Voilà, ça c'est très important à comprendre. Beaucoup de gens disent, mais je ne suis pas aux AFC parce que je fais de l'aumônerie. Alors non, notre action n'est pas du tout dans le même ordre. Nous ne sommes pas pastorales, nous sommes dans un autre plan. Et c'est pour ça que j'ai parlé d'action syndicale. L'action syndicale, pour l'adhérent, ça consiste à donner sa voix à des représentants qui le représentent. Aux AFC, il y a, sur les 26 000 familles, vous pensez qu'il n'y a pas beaucoup de bénévoles, de militants. La plupart sont adhérents pour donner leur voix aux AFC, quand les AFC votent dans des conseils d'administration, que ce soit à l'UNAF ou ailleurs, et particulièrement à l'UNAF, le vote est dit familial, c'est-à-dire que le nombre de voix dépend du nombre d'enfants de la personne. Plus on a d'enfants, plus on a de voix. Donc c'est important d'adhérer pour donner sa voix, parce que ensuite, quand on arrive devant les pouvoirs publics, c'est AFC combien de divisions ? Donc vous représentez combien de personnes ? Donc 26 000 familles, vous voyez qu'en réalité, c'est très peu. C'est très peu dans la sphère catholique, même la sphère catholique pratiquante qui aujourd'hui est très réduite. 26 000 familles, ça reste très peu. Donc il faut adhérer, pas forcément pour militer. Très bien, s'il y a des bénévoles, bien sûr, on les recherche, on en a besoin, mais surtout pour donner de sa voix et donc permettre aux AFC de représenter un plus grand nombre de personnes et d'avoir plus de poids quand nous exprimons des opinions.
Alors, quels sont les principaux combats que vous allez devoir mener pour protéger la famille à venir ?
Alors, en termes de politique familiale, notre action au plus court terme, c'est la préparation des élections et de contacter à travers nos fédérations et nos associations tous les candidats aux élections régionales et de leur proposer ce que je vous ai dit tout à l'heure, mise en forme pour eux, les actions possibles pour améliorer la politique familiale à leur niveau. Ça, c'est l'action la plus court terme. Et bientôt, même dès maintenant, On va commencer la même chose pour la campagne présidentielle. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? Je pense que le sujet suivant, ça va être la question des retraites. La réforme des retraites est pour l'instant mise de côté, mais elle va ressortir très rapidement et il faut être prêt à réagir, proposer et faire en sorte que la réforme des retraites soit acceptable et favorable aux familles. Et qu'on tienne ce à quoi nous tenons beaucoup, c'est qu'on tienne compte de du fait que les familles préparent l'avenir et les familles investissent pour la France. Et donc, ça doit être reconnu. Donc, prochain gros sujet, la réforme des retraites.
Vous allez avoir du travail. Écoutez, nous arrivons au terme de l'émission. Merci d'avoir offert ce temps aux nos auditeurs et effectivement de nous avoir raconté un petit peu, expliqué ce que vivent les familles. Hein, voilà les difficultés que nous traversons, les avancées, les reculs. Mais voilà, on ne peut que mieux faire. Donc, riche de tout ça, ben nous pouvons prier effectivement pour les familles et pour toutes les missions que vous avez au travers de ces AFC. Je vous laisse conclure peut-être des paroles d'espérance voilà, dans ce monde qui souffre un petit peu.
Eh bien, je voudrais simplement d'abord dire merci aux auditeurs et leur souhaiter une très bonne journée et de leur dire que la famille est naturelle et donc elle ne peut pas mourir. Donc, gardons confiance. Il y a beaucoup de gens qui se battent pour ça. Et le combat n'est pas vain. Le passé nous montre qu'il y a des belles choses qui ont été faites et donc il n'y a pas de raison que nous non plus ne puissions pas faire de belles choses. Bonne journée à tous.
Merci François Dutoit pour ce temps pour nos auditeurs. À très très bientôt. Au revoir.
Au revoir.